Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste à AEF Info, et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, pour poser toutes nos questions à l'invité de ce nouvel épisode du grand oral, Emmanuel Mettet, directeur général de l'EDEC. Bonjour Jérôme et bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
Emmanuel Mettet, quand on ouvre Wikipédia, à votre page, on lit ceci. Sa mère est institutrice et son père expert comptable. Il pratique dans son enfance le hockey sur glace en club. Il obtient en 1991 un master en management du sport, ainsi qu'un master en sociologie à l'université de Strasbourg. L'année suivante, il décroche un master en management décerné par l'ESSEC et par l'IAEDEX, puis un doctorat en management stratégique auprès de ces deux établissements. Diriger une grande école de commerce, c'est aussi un peu du sport ?
C'est carrément du sport, ouais, c'est de la compétition, c'est de l'apprentissage, c'est du travail collectif et en équipe, donc ouais, c'est un peu tous les ingrédients du sport, et de ce point de vue-là, c'est extraordinaire.
Alors, vous avez pris la succession d'Olivier Auger, figure tutélaire de l'EDEC en 2017, et vous avez su assez vite prendre vos marques pour piloter ce gros bateau. Il faut dire qu'Olivier Auger, vous avez laissé un héritage rutilant, avec notamment la fameuse pépite qui était Scientific Beta, cette spin-off créée par des chercheurs de l'EDEC, notamment Noël Aminck, que vous avez revendu à la Bourse de Singapour pour engranger 200 millions d'euros. De quoi permettre à la grande école indépendante qu'est l'EDEC, née dans le giron de la Cato de Lille, de voir venir. Un coup pareil, Emmanuel Mettet, que tous vos alter-ego dirigeants de business school aimeraient bien reproduire un jour, c'est de la pure chance ou bien c'est le résultat d'une stratégie longuement réfléchie ?
Alors c'est le résultat d'une stratégie qui a commencé 20 ans avant, en fait, puisque dès le début des années 2000, en fait, Olivier Auger et le président Bernard Fournier, Noël Aminck, s'étaient fixé un cap à l'époque qui était de dire on veut que la recherche ne soit pas uniquement une recherche académique. Bien sûr, il faut de la recherche académique, mais il faut aussi que la recherche ait un impact sur la société, sur les entreprises. Et donc c'est dès les années 2000 que cette vision-là a été finalement mise en place. Et puis on a travaillé sur 20 ans, créé ce spin-off au début des années 2010, qui a grandi, et qu'effectivement on a revendu au profit de la Fondation EDEC. C'est important de le préciser. Fondation EDEC qui a pour objectif évidemment de servir la mission d'intérêt général qu'est finalement l'EDEC.
Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est reproductible ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refaire la même opération dans d'autres domaines et que sans doute tous vos concurrents se posent également donc.
Alors, comme vous le savez, l'EDEC est un membre de l'Université catholique de Lille et en bon chrétien, on sait qu'un miracle, eh bien, ça ne se produit qu'une fois. C'est le propre d'un miracle. Et effectivement, notre objectif, ça va être de le reproduire. Alors, c'est des ingrédients qui sont extrêmement compliqués, hein, finalement. C'est vrai qu'on raconte l'histoire en quelques instants, mais en vérité, c'est dans le temps long. Vraiment un esprit d'entreprise, d'une innovation assez radicale, que le système finalement ne reconnaît pas toujours d'ailleurs. Hein, cette idée de dire que la recherche académique doit être monétisée, des gens estiment que ça ne devrait pas être le cas. Nous, on pense que c'est le cas et c'est justement comme ça qu'on mesure l'impact. Donc oui, on fait en sorte que ce soit reproductible et on a encore aujourd'hui deux autres spin-offs comme Scientific Beta, donc plus qu'en incubation. Il y en a une en incubation qui est une fintech et puis une autre qui est dans sa phase de développement commercial qui est spécialisé dans les investissements en infrastructure en fait.
Quelques petits mots sur ces deux projets, enfin bien avancés déjà.
Oui, alors Scientific Infra, c'est une spin-off qui est basée à Singapour et dont l'objectif finalement est de fournir aux investisseurs en infrastructure et bientôt en private equity, donc sur un marché beaucoup plus large, eh bien, des outils qui vont leur permettre d'investir, j'allais dire, de manière efficace en termes de connaissance des risques et des rentabilités de leurs investissements, y compris des risques climatiques, y compris des risques ESG. Donc c'est ça qui est aussi très novateur. Et puis on en a une autre qui s'appelle Scientific Portfolio, et qui, là, c'est une fintech, mais c'est je vais pas tout révéler aujourd'hui, mais voilà, étant de permettre à des investisseurs de créer leurs propres indices. Voilà.
D'accord, ça sera pour la prochaine fois.
Ça sera pour la prochaine fois, et à chaque fois avec des travaux scientifiques à la base, c'est ça qui est important.
Très bien. Alors aujourd'hui, on a envie de vous interroger sur un autre pan de votre stratégie, qui est peut-être moins connu à ce jour, c'est celui de vos développements en ligne. Vous avez misé dès 2018, donc assez vite après votre arrivée à la direction générale de l'EDEC, sur une alliance portée par l'Imperial College à Londres qui visait à créer une plateforme de diplôme en ligne baptisée FOM, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, pour Future of Management Education. Et puis, vous avez aussi très vite lancé un service dédié à la formation en ligne, EDEC Online. Alors, quels étaient les objectifs que vous avez attribués à ces deux outils ?
Alors, si on se remet presque maintenant, pas tout à fait 10 ans, mais en tout cas 7 ans en arrière, toutes les études disaient que l'enseignement était quand même très en retard. C'était une des industries les plus en retard sur la digitalisation. Mais on sentait bien qu'il y avait un virage là qui était en train de se prendre. Et ce qu'on voulait, c'était prendre ce virage, mais de manière, comme toujours à l'EDEC, à la fois très entrepreneuriale et très indépendante. Donc on ne voulait surtout pas faire ça de manière trop significative avec les grandes plateformes d'enseignement en ligne. On en fait un petit peu, mais on voulait vraiment rester indépendant, garder nos contenus. On ne voulait pas se soumettre à un quelconque Spotify de l'enseignement supérieur, voilà, pour le dire autrement. Et puis, la deuxième chose, on voulait faire vraiment de la qualité. Donc, notre but n'était pas d'avoir des millions d'apprenants en ligne. C'était vraiment de proposer une vraie expérience qualitative de type EDEC en ligne. Voilà, donc ça, c'était vraiment notre point de départ. Donc, prendre un virage, finalement, et pas uniquement pour s'amuser avec la technologie, mais parce qu'on voyait bien que ça permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas toujours faire, finalement, sur nos campus. Et finalement, rester très indépendant et très entrepreneurial, en fait, sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment le point de départ.
Et concrètement, aujourd'hui, donc à près de 7 ans, si j'ai bien compris, c'est quoi les conséquences pratiques de cette alliance FOM en termes d'étudiants ? Est-ce que vous avez industrialisé en quelque sorte les process ?
Alors FOM, en fait, c'est Future of Management Education, donc c'est effectivement FOM. Le point de départ, c'est Imperial College, et en fait, on s'est associé aujourd'hui à une quinzaine de grandes marques dans le monde qui partagent en fait cette même vision et cette même envie à la fois de surfer sur une transformation technologique, mais en même temps d'indépendance. On s'est rendu compte que de le faire ensemble, évidemment, on serait beaucoup plus puissant qu'à le faire tout seul. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir une pédagogie identique. Donc, on a standardisé ce que c'est que la pédagogie online. Donc, on a défini une cinquantaine de dispositifs pédagogiques. Bien sûr, les cours synchrones, les cours asynchrones, les quiz, les jeux, etc. Mais voilà, toute une panoplie, en fait, qu'on a standardisée. C'est une plateforme, Incendi, en fait, qui est une plateforme qui répond spécifiquement à nos besoins, en fait, et que les autres plateformes standards ne proposent pas. Et puis, c'est une volonté d'avancer ensemble sur une courbe d'expérience. Donc, les responsables FOM de chacune de nos institutions, donc Imperial, SAD, Johns Hopkins aux États-Unis, Melbourne, SMU, etc., ESMT à Berlin, se parlent très régulièrement. Et en fait, on a des sujets sur lesquels on avance. Aujourd'hui, à l'EDEC, EDEC Online, on a eu à peu près 2500 élèves qui sont passés à travers nos programmes. Et aujourd'hui, c'est dans nos programmes diplômants à peu près 500 élèves et dans nos certificats à peu près 300 élèves venus du monde entier.
Oui, parce que ça vous permet d'adresser des publics différents, parce que vous avez déjà quand même des campus un peu partout dans le monde. Donc, quand vous regardez un peu d'où viennent les étudiants, c'est très différent de vos campus ou c'est quand même très lié à vos campus ?
Alors, c'est un petit peu différent de nos campus. C'est en gros la moitié de nos étudiants sont français ou basés en France, sachant qu'on a une dizaine de programmes diplômants dont 3 sont en français et les autres en anglais. Et après, l'autre moitié, c'est vraiment des gens qui viennent du monde entier, mais quand même avec une majorité qui viennent d'Europe, Allemagne, Italie, Espagne, Afrique subsaharienne, Chine, Inde, Amérique du Nord aussi, pas mal, Amérique du Sud. Donc il y a quand même un gros noyau européen, on va dire, mais en vérité, des gens qui viennent du monde entier.
Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'EDEC pourrait être majoritairement online ?
Tant que je serai là, la réponse est non, d'une part. Et d'autre part, je ne pense pas. Un des buts d'EDEC Online aussi était de s'adresser à un marché en fait, qui n'est pas concurrent de nos autres programmes. Donc l'objectif était vraiment d'attirer sur nos campus des gens qui ont de bonnes raisons de ne pas pouvoir venir sur le campus. La moyenne d'âge en fait, des étudiants, c'est 33 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont déjà en poste, qui ont déjà une expérience professionnelle et qui veulent finalement étudier tout en gardant leur travail, en restant dans leur pays. Et donc, je pense que c'est vraiment deux marchés qui peuvent être adressés de manière totalement séparée. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On vend nos programmes d'ailleurs à peu près au même prix, que ce soit les programmes sur les campus ou les programmes en ligne. Par contre, c'est une entité très à part. On l'a, je le disais, développée de manière très entrepreneuriale. Aujourd'hui, EDEC Online, c'est une cinquantaine de personnes qui sont assez indépendante finalement de l'EDEC. C'est l'EDEC, mais c'est une petite équipe au départ qu'on a mise à part parce que c'est un marché différent, c'est une pédagogie différente, c'est un ensemble de processus qui sont complètement différents du marché traditionnel.
Et vous gagnez votre vie sur cette activité ou pas encore ?
Alors la chance quand on est une école comme l'EDEC à but non lucratif, c'est justement de ne pas vouloir absolument être focalisé sur des revenus à court terme. Et on s'est donné du temps en fait.
Donc je comprends, pas encore.
Pas encore, mais le but n'était pas de gagner à court terme. Le but, c'est des investissements assez massifs. Encore une fois, dans un mode très entrepreneurial, très agile. Et il faut se donner du temps, mais au fil du temps, le nombre d'étudiants suit la courbe finalement qu'on s'est donnée, aussi bien en quantité qu'en qualité. L'équipe se développe. Aujourd'hui, EDEC Online, encore une fois, c'est une cinquantaine de personnes.
Les 50, ce sont des ingénieurs pédagogiques, des professeurs, des administratifs, des commerciaux, c'est quoi ?
On a divisé ça en quatre branches. Il y a une branche, on va dire, qu'on appelle Customer Experience, donc qui est toutes les activités support, en fait, IT, l'administratif de support, etc. Il y a une branche produit, donc dans laquelle on conçoit les programmes, dans laquelle on décide du delivery, du format, dans laquelle on décide du coaching, de l'accompagnement. Le coaching a une part très très importante, on y reviendra peut-être. Il y a une partie qualité, donc ça c'est une personne, mais dont le boulot est de contrôler la qualité au quotidien et d'être dans une logique d'entretenir des boucles de progrès quotidienne. Puis il y a une branche qu'on appelle RevOps, en fait, donc c'est Revenue Operations, donc en bon français, c'est du marketing, c'est des admissions, c'est de la prospection. Voilà, donc c'est les quatre branches, et c'est effectivement des gens qui, par leur carrière, sont vraiment des gens dont le digital, finalement, était le métier. Les professeurs sont les professeurs de l'EDEC.
Ça, dans les 50, c'est pas des professeurs différents
non,
en plus.
Non, c'est vraiment 50 dans le donc il y a des ingénieurs pédagogiques, il y a des gens de marketing, il y a des admissions. Les professeurs sont en plus et effectivement, c'est des professeurs du groupe EDEC parce que c'était un des objectifs effectivement de se développer en mode entrepreneurial. Mais le but étant d'emmener toute l'institution dans cette révolution-là et donc d'emmener avec nous les professeurs de l'EDEC.
Depuis l'arrivée de ChatGPT et son adoption massive par le grand public, on ne parle plus que d'IA dans le secteur de l'enseignement supérieur, entre autres, et de tout ce qu'elle pourrait bousculer, que ce soit dans la gestion des établissements, dans la formation des étudiants ou bien dans la recherche. Vous, à l'EDEC, qu'est-ce qui, à ce jour, vous paraît le plus prometteur, le plus transformant quand on parle d'IA appliquée à la formation supérieure ?
Alors, effectivement, c'est une révolution phénoménale. Il faut peut-être... On a une innovation tous les jours. D'ailleurs, ChatGPT, vous le savez, peut-être n'est plus l'IA générative la plus utilisée. Donc, Claude est passé devant. Et puis, Gemini arrive avec des fonctionnalités que ChatGPT n'a pas. Donc, il y a des innovations tous les jours. Après, il faut essayer quand même de regarder ça aussi dans un temps long et de se dire que finalement, maintenant, depuis... la révolution industrielle, l'homme a finalement cherché à externaliser un petit peu toutes ses fonctionnalités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Et il faut voir ça aussi dans un continuum dans lequel, ben, effectivement, on a externalisé la connaissance et puis aujourd'hui l'intelligence, c'est-à-dire la création, la rédaction, peut-être un jour les émotions, peut-être un jour les croyances, la conscience, etc. Donc je ne vous parle pas d'ordinateurs quantiques quand ils vont arriver, ce qu'ils vont permettre. Donc il faut quand même se remettre un petit peu dans cette au-delà de toutes les modes et toutes les révolutions effectivement, qui nous impactent. Il faut peut-être se remettre aussi dans cette continuité-là. Alors évidemment, à l'EDEC, comme dans toutes les écoles, ça nous touche à tous les niveaux. Le contenu des programmes et les programmes eux-mêmes, ce qu'on va enseigner à nos élèves. Le delivery, ce qu'on appelle là encore en bon français des programmes, c'est-à-dire comment on va enseigner tout ça à nos élèves. Évidemment, avec la robotisation, eh bien, tout ça est en train de se transformer. C'est toutes nos opérations. Nous-mêmes, on est des organisations qui, aujourd'hui, l'EDEC, c'est quasiment 200 millions d'euros de budget, c'est 800 personnes. Donc, tout ce qu'on va pouvoir automatiser, ben, on pourra le faire. C'est tout le conseil aux étudiants. Conseil carrière, par exemple, on peut commencer à être secondé par des intelligences artificielles. C'est des questions éthiques, évidemment, sans précédent. Voilà, tout ça, finalement, ben, nous impacte à tous les niveaux. Et l'IA, finalement, on est en train d'entamer une révolution absolument extraordinaire et on en est probablement qu'au tout début.
Est-ce qu'il y a une expérimentation en particulier dont vous pourriez nous parler qui illustrerait ce que ça change concrètement dans le quotidien des étudiants, par exemple ?
Alors, il y en a beaucoup. Je dirais en ce moment, entre guillemets, la mode est à la conception de robots. Par exemple, des assistants pédagogiques robotisés. Vous rentrez tous les supports de cours dans un robot dérivé de ChatGPT, et puis des lectures, des slides, et puis ben, vous avez un robot prof, en fait, ou un robot enseignant assistant pédagogique. à qui l'élève peut poser plein de questions sur le cours, aussi bien sur un sujet qu'il n'a pas compris, aussi bien de le faire un quiz pour voir si j'ai compris telle ou telle chose. Si je ne l'ai pas compris, ben, réexplique-moi. Si j'ai compris, fais-moi un quiz un peu plus difficile pour voir. Il faut admettre que c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est des assistants pédagogiques. On a également, finalement, au sein de FAUM, l'EDEC, d'ailleurs, au sein de FAUM, dirige le groupe de travail sur l'intelligence artificielle. On a deux professeurs de marketing qui ont été récompensés, Loïc Mainviel et Marie-Catherine Mars, qui ont fait une étude de cas. Donc un professeur robot qui fait une étude de cas, et donc vous rentrez toute une foultitude d'informations sur une entreprise. Évidemment, faut entraîner un peu le robot quand même, parce que sinon, le prof, pour le coup, n'aurait plus rien à faire. En tout cas en amont. Et puis, ben, les étudiants ont fait l'étude de cas directement avec le robot, posent leurs questions, proposent leurs solutions. Voilà, évidemment, c'était à titre expérimental, mais ça marche de manière assez impressionnante.
Une université 100% IA demain avec très peu de profs et tout dématérialisé, c'est un fantasme avec lequel on joue à se faire peur ou c'est possible?
Je pense qu'il y a quelques années, c'était un projet de professeur Nimbus. Je crois qu'aujourd'hui, on y est. Il y a clairement aujourd'hui, dans le domaine des tech, des entrepreneurs qui rêvent effectivement d'université full AI et qui se lancent dedans. Et quand on voit dans le domaine des médias, donc l'expérience qui a été faite par Channel One, d'un premier journal télévisé full IA, où d'un côté on rentre news, et de l'autre côté on voit un avatar d'un grand journaliste, présentateur de télé, finalement faire une vidéo très très réussie, on a en face de nous, qu'on le veuille ou non, un des avenirs, je dis bien un des avenirs, certainement pas le seul, mais un des avenirs de l'enseignement. La technologie est là, elle va progresser, donc oui, c'est plus qu'un fantasme aujourd'hui.
Il y a quand même une question d'acceptabilité de l'IA. Dans la formation, elle ne semble pas totalement acquise. D'après ce que j'entends dire, les étudiants utilisent plutôt mal l'outil, ils n'y sont pas formés, ils ne vont pas naturellement vers les tuteurs virtuels qui leur sont proposés. Faut-il les y accompagner? Est-ce que le grand défi des écoles et des universités aujourd'hui, ce n'est pas d'enseigner à parler aux IA?
Absolument, mais je pense que c'est... Souvent, on nous pose la question, et on pose la question aux professeurs en disant « Cette jeune génération, elle est très probablement en avance sur vous. » Alors, pas du tout. Bien sûr, il y a toujours un petit noyau d'étudiants passionnés qui maîtrisent ça avec maestria, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes qui, finalement, en font un usage très primaire, avec les risques que ça comporte, hein, parce que finalement, bien tenu, utiliser une IA, c'est, j'allais dire, comme conduire une Formule 1, par exemple. Il faut être expérimenté, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut savoir comment le chercher, il faut savoir ce qu'on veut trouver aussi, parce qu'une IA peut halluciner, nous dire n'importe quoi. On a vu récemment les images de soldats SS, je crois que tout le monde les a vues, mais de représentant une diversité avec des soldats SS à la peau de couleur noire ou des femmes. Donc ça pose vraiment la question du bon usage et notre rôle finalement est vraiment d'éduquer nos étudiants et de leur donner une pensée critique par rapport à ça. Donc de vraiment les étudier à l'art à l'art du prompting. Donc dans
Mais le prompting, ça veut dire comment on donne ses ordres en gros à l'IA, c'est ça?
C'est ça. Comment on travaille intelligemment avec une IA. Finalement, dans tous nos nouveaux programmes, on développe aujourd'hui de nouvelles filières, donc data IA, aussi bien dans la grande école que dans le bachelor. Il y a des cours d'éthique sur l'IA, on pourra peut-être y revenir, mais il y a des cours de prompting, effectivement, comment, entre guillemets, on dresse une IA, comment on crée un robot, comment on parle à une IA, comment on lui donne des consignes, comment on l'emmène à donner le meilleur d'elle-même, comment on la spécialise, en fait, dans un domaine. Et ça, c'est un art, effectivement. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas le faire, posent des questions un peu naïves, finalement, comme on les poserait quasiment sur Google. En fait, il y a tout un travail auquel il faut les éduquer parce que c'est le monde dans lequel ces jeunes-là vont vivre.
Et ça, vous avez introduit ces cours-là à l'EDEC cette année, partout, pour tous vos étudiants, ou c'est encore à l'état d'expérience?
Alors non, c'est plus qu'à l'état d'expérience. Donc dans tous les programmes, finalement, qui sont de près ou de loin liés à la data, finalement, il y a effectivement des cours de prompting. Et puis, on va ouvrir donc, à la rentrée de septembre 2024, là, dans quelques mois, finalement, donc un track data IA dans la grande école, dès le M1, finalement, où là, il y aura effectivement des cours de prompting et il y aura aussi des cours d'éthique. Parce que finalement, c'est pas uniquement la data qui compte, c'est la manière de s'en servir.
Et comment les profs vivent ça? Alors, je parle pas du petit noyau qui traditionnellement est en avance ou ceux qui font les cours de prompting ou d'analyse de données, de data, mais les autres, c'est-à-dire le ventre mou du corps enseignant. Est-ce qu'ils sont inconscients? Est-ce qu'ils ont des perspectives? Ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer?
Alors, j'irais alors, bah, comme vous le disiez, il y a comme toujours les leaders voilà, qui vont jouer avec, faire des expériences, etc. Il y a peut-être quelques réfractaires, en tout cas, j'en vois pas beaucoup au tout début, ceux qui vous disent là, faut interdire aux étudiants d'utiliser ça, comme si on allait leur interdire la calculatrice ou Google ou que sais-je. Donc, je crois que ceux-là, en général, se font vite une raison. Et puis, il y a effectivement un ventre mou, mais de gens qui. Alors, pour certains, ils vont bon gré mal gré, pour d'autres, ils vont un peu curieux. Et c'est là que finalement, le rôle, en fait, de à la fois EDEC Online, à l'EDEC, qui est vraiment pour nous le fer de lance des expérimentations IA, mais aussi on a un laboratoire d'innovation pédagogique qui est propre en fait au programme physique en fait, et là c'est là que entre en ligne ce laboratoire d'innovation pédagogique dans lequel il y a des ingénieurs pédagogiques notamment et dans lequel les professeurs peuvent se fournir en outils divers et variés, en scénarios divers et variés pour leurs enseignements, en conseils divers et variés auprès d'assistants pédagogiques et d'ingénieurs pédagogiques. Donc c'est là finalement qu'il faut créer en interne les conditions pour rassurer, expliquer, former. Et d'ailleurs, le gros enjeu, finalement, va être, bien sûr, de former nos élèves, mais aussi de former tout notre personnel. J'allais dire, depuis l'assistant, l'assistante, au professeur. Finalement, il n'y a pas que les professeurs.
Et donc, vous avez une structure organisationnelle au-delà du laboratoire pédagogique au sein de l'EDEC qui est chargé de ça, avec un monsieur ou madame IA qui serait dans votre COMEX pour gérer ce type de problématique ou...
Alors moi, j'aime pas tellement les monsieur ou madame problème parce que souvent, ils se retrouvent bien seuls au milieu d'un COMEX et puis au bout de 6 mois, ils s'en vont parce qu'ils sont... Ils sont frustrés et ils ont bien raison. Moi, je crois plutôt, et ça, c'est un peu notre état d'esprit entrepreneurial, agile à l'EDEC, je crois plutôt à la diffusion et en fait à l'expérimentation locale. Donc, je pense qu'il faut laisser beaucoup de décentralisation en fait, dans l'organisation. Il faut favoriser les expérimentations, les laisser prospérer, faire en sorte, évidemment, après que les gens se parlent, qu'on ne refasse pas à 10 endroits différents les mêmes choses. Mais on voit bien que dans une révolution comme celle-là, il faut que tout le monde teste, mette les mains dedans, s'empare. Donc, en fait, il y a des sujets, effectivement, il y a des gens qui... On a défini, en fait, 4 verticales sur l'IA à l'EDEC. Donc, la transformation et de la recherche et des programmes, la création pédagogique, la formation des gens. Et puis, la dernière m'échappe, mais elle va me revenir.
Vous la retrouverez d'ici.
Tous les aspects système, bien sûr, parce qu'il va falloir... là, c'est des énormes investissements.
Système d'information.
Voilà. Et en fait, chacune de ces verticales a tout un groupe de personnes qui travaillent à faire des expérimentations et on les fait se réunir de temps en temps. Donc, il y a un monsieur, mais en l'occurrence une madame IA, effectivement, à l'EDEC. Mais l'important, c'est qu'elle ne soit pas tant au COMEX qu'en coordination de tous ces efforts-là pour centraliser et cumuler l'expérience, en fait, sur toutes ces expérimentations.
Emmanuel Mettet, on arrive lentement, mais sûrement, à la fin de ce podcast. Il est temps d'en venir à notre question finale et traditionnelle. Quel conseil de lecture pourriez-vous donner à nos auditeurs pour continuer à réfléchir à toutes ces questions passionnantes ?
Alors, je pourrais, pour être dans l'air du temps, y compris collé à l'entretien que l'on a d'avoir, donner plutôt un conseil de visite d'un nouveau site web, une nouvelle IA qui s'appelle Yum.ai. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez voir.
Yum.ai.
Donc, c'est une intelligence artificielle conversationnelle qui fait preuve d'empathie, d'émotion, avec laquelle il suffit d'y aller. Puis, c'est un chat GPT, mais qui vous parle avec beaucoup d'affection et de gentillesse. Donc,
comme voilà. Un Siri, un petit peu ?
Voilà, mais en nettement plus intelligent.
Aha.
Voilà. Et avec qui on peut vraiment avoir une conversation structurée. C'est assez... Enfin, là aussi, ça préfigure de ce que seront les robots demain. On en est qu'au tout début. Mais après, ça, c'est, j'allais dire, l'innovation du moment, c'est l'écume des choses. Mais si je devais suggérer une lecture peut-être un peu plus profonde, ça serait celle d'un philosophe français qui, maintenant, est décédé, mais qui avait un peu votre accent, d'ailleurs, chère Sarah, qui est Michel Serres et qui a écrit
bien
à l'aube
sûr,
du 21e siècle, pardon, un bouquin fabuleux qui s'appelle « Omniscience » et qui permet, je pense, encore aujourd'hui, d'avoir un regard... plurimillénaire, en fait, sur les évolutions et les transformations technologiques, comment effectivement l'homme projette toutes ses facultés, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, dans des objets technologiques et là, sa métaphore de Saint-Denis qui part avec sa tête sous le bras, eh bien, c'est l'homme finalement avec son ordinateur devant lui. Et c'est finalement, je pense, c'est un des bouquins les plus éclairants finalement qu'il peut y avoir si on cherche à comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et surtout ce qui va encore se jouer demain avec toutes ces grandes transformations. Donc, voilà, Omniscience de Michel Serres.
Ça donne très envie. Merci beaucoup Emmanuel Mettet, DG de l'EDEC, pour ce partage et pour votre visite au studio Module. Merci aussi à vous, Jérôme Cabi. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.